Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous les amis qui nous rejoignent pour notre méditation de ce jour. Voilà, je vous invite à une petite étude comparative du royaume de Dieu, autrement dit du royaume des cieux, et nous allons porter notre attention sur ce que nous enseigne Jésus dans un premier évangile, celui de Matthieu, et ensuite de Marc. Alors, en ce qui concerne Matthieu, au chapitre 13 et au verset 24, nous prenons ce premier verset, et voilà ce que Jésus nous dit. Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Voilà pour le verset 24, et je retiens la chose « Semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Et il est ajouté « Ce royaume des cieux est semblable. » Voilà donc en ce qui concerne Matthieu. Lorsque nous tournons les pages de notre évangile au évangile de Marc, chapitre 4 et verset 26, et nous le relirons un peu plus tard, Jésus dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette de la semence en terre. Il en est du royaume de Dieu, royaume des cieux, comme d'un homme qui jette de la semence en terre. » Le royaume de Dieu comparé à de l'ivraie croissant avec le bon blé. Il est comparé également au grain de sénevé, nous le verrons un peu plus tard, dans une autre proposition. Il est aussi comparé au trésor caché, également à une belle perle. La comparaison va également dans l'enseignement de Jésus au filet qui est jeté dans la mer, également à la semence jetée en terre et au levain dans la pâte. Cette comparaison successive et leur particularité, et pourquoi? Et c'est ce que nous allons expliciter maintenant. Tout simplement, Jésus donne ces petites paraboles pour aider la compréhension. Je voudrais faire une remarque, c'est que Matthieu emploie le terme « royaume des cieux » alors que Marc et Luc utilisent l'expression de « royaume de Dieu ». Nous allons nous expliquer sur cette question. Le royaume de Dieu est une vérité expérimentale concernant l'acceptation du cœur, de cœur, de tout le message du salut de l'âme, qui comprend le pardon de Dieu, la foi en Jésus-Christ, qui accepte de profondément Dieu qui en est l'auteur, Jésus-Christ, le réalisateur, l'homme qui croit, le bénéficiaire, celui qui se convertit, non pas à une religion, mais à Jésus-Christ, entre dans le royaume de Dieu, nous dit l'Écriture sainte. C'est le message d'appel de l'Évangile, c'est une gracieuse invitation qui se reçoit sur la base unique de la foi. Et d'ailleurs, dans les Évangiles et dans les débuts des évangiles, il est dit ceci, « Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Les Juifs répugnaient à prononcer le nom sacré de Dieu. Matthieu, en bon israélite qu'il était, change le nom de royaume de Dieu en royaume des cieux. Tout cela pour éviter de prononcer le mot de Dieu. Néanmoins, l'expression du royaume des cieux a sa signification propre, royaume qui est sous les cieux et qui est le résultat et la conséquence de cette expérience spirituelle de conversion, c'est-à-dire la suite logique la suite nouvelle, la nouvelle naissance que l'on pourrait nommer de cette manière, et également qui entraîne la justification, la transformation permanente de l'homme qui, eh bien, fait acte de foi. Quand un homme donne sa vie à Dieu, c'est-à-dire on lui donnerait peut-être ce nom, lorsque un homme se convertit à Jésus-Christ, il passe d'un royaume à un autre. Alors de quoi s'agit-il ? C'est-à-dire du premier royaume, celui de la nature, avec ses instincts, ses pulsions, sa volonté propre, à celui des principes d'un ordre spirituel et conforme avec la parole de Dieu. Royaume de Dieu, royaume des cieux, réalité invisible cachée dans les cœurs des croyants, mais c'est également la concrétisation définitive de ce que sera l'éternité dans le ciel. Le royaume de Dieu est cette préparation dans les cœurs, dans les vies, la transformation, et également eh bien, le royaume des cieux, c'est cette espérance que nous avons, que lorsque nous aurons quitté cette terre, la terre que nous connaissons, eh bien, nous passerons l'éternité dans le ciel, royaume des cieux, pour tous ceux qui seront sauvés, ou qui sont sauvés déjà maintenant, par leur foi. Le royaume de Dieu dans le ciel se détermine pour chacun par l'action en nos cœurs dès ici-bas. Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Ça, c'est eh bien, la première proposition que nous avons lue tout à l'heure. Hein, dans, naturellement, Matthieu, chapitre 24 et la suite. Alors, il y a là une image de ce que Dieu, à l'origine des choses, a fait. Le champ, c'est le monde des hommes. Dieu avait créé une terre sans le mal. Mais il y a eu, on peut peut-être parler, le mot n'est pas trop fort, de sabotage qui a entraîné une corruption générale, ou on pourrait dire généralisée, dont, eh bien, à travers les siècles, nous en voyons les effets, la mort, la maladie, le tourment, toutes sortes de choses qui sont véritablement eh bien, caractérisées de mal et de maléfique. Tout comme l'ivraie, dans un champ de blé, l'envahit ce champ de blé et le corrompt. L'ennemi en question est personnalisé par le diable, à travers ses séductions, à travers ses mensonges, à travers ses révoltes, voulant aussi révolter eh bien, la créature contre son créateur. Insidieusement, le mal s'est infiltré et le monde offre le spectacle d'une grande confusion entre l'erreur et la vérité, le bien et le mal, et puis on pourrait naturellement eh bien là, continuer eh bien, tous ces paradoxes. Il est question de la moisson qui représente la fin du monde et des moissonneurs dans la personne des anges. Si vous relisez ce paragraphe, eh bien vous allez naturellement eh bien avoir dans les mots tout ce que je suis en train de passer rapidement. Et qui, à la fin des temps, viendront faire le tri entre les sauvés et ceux qui ont refusé de l'être. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et naturellement, cette réjection eh bien, amène les hommes à passer à côté de l'offre de la grâce et du salut. Le royaume des cieux alors sera constitué uniquement de ce que Jésus appelle, à juste titre, la bonne semence ou fils du royaume. Les autres, par le rejet volontaire de la vérité, sont désignés comme l'ivraie, fils du malin. Si aujourd'hui, dans ce monde, règne une grande équivoque, il n'en sera pas toujours ainsi. Un tri sera fait sur les bases d'un choix décisif et personnel. On n'est pas sauvé par une église, on n'est pas sauvé par un mouvement, on n'est pas sauvé par eh bien, une majorité qui s'unirait pour décréter une croyance ou une autre, mais une chose qui est certaine, et la Bible et l'Évangile le marquent d'une manière tout à fait particulière, nous sommes sauvés par notre décision, notre engagement dans « Seigneur, eh bien là, ce que véritablement, eh bien, là, ce que le Seigneur nous indique, c'est notre engagement personnel. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, un texte qui, eh bien, là, résume tout cet évangile, il est dit ceci, Jésus dit ceci à ses disciples, « Celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, il est bien entendu que c'est une question de foi, ce n'est pas une question de bonnes œuvres, ce n'est pas une question là d'autre chose que finalement eh bien, l'engagement de croire. Paul dira ceci dans une de ses épîtres, « Ne vous y trompez pas, ni les immoraux, les idolâtres, les adultères ou les pervers, les débauchés, les sensuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les escrocs, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les accaparateurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Il faut dans tout cela eh bien, qu'il y ait, où les comptes de notre vie doivent être remis à jour. Et il ne s'agit pas que Dieu nous condamne, il s'agit que Dieu nous sauve. Et pour être sauvé, eh bien, il faut croire en lui et lui demander pardon. C'est-à-dire tous ceux qui complaisamment refusent de changer de vie, parce qu'il s'agit bien d'une vie nouvelle. Jésus maintenant compare le royaume de Dieu à une petite graine. Et nous allons le lire à travers le verset 31 et 32. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il est intéressant de prendre finalement la mesure de ce que Jésus nous enseigne. On a parlé de l'ivraie, on a parlé du bon grain, maintenant il est question d'une graine indifférente, mais peu importe, c'est le principe qui est eh bien, relevé par Jésus. Grain de sénevé, que l'on appellera peut-être aussi grain de moutarde, qui est extrêmement petite, mais qui, lorsque la plante pousse en Orient, dans ces régions, eh bien, prend de la hauteur et devient touffu comme un arbre. Que veut dire Jésus ? La foi qui est nécessaire pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et ensuite, eh bien, il y a son développement que l'on nomme vie spirituelle. Si on met naturellement, eh bien là, en correspondance, une petite graine là, des phénomènes de la nature avec la vie spirituelle, eh bien, nous voyons que eh bien, cette foi, la confiance, son développement, donc nommé vie spirituelle, est à l'image de cette insignifiante petite graine. Tout commence petitement dans le cœur, modeste à l'origine, faible moyen de croissance à ses débuts, mais lorsque les conditions sont réunies, elle prend des proportions insoupçonnées dans la vie et produit de grands résultats évidents. C'est une étonnante transformation, nous pourrions dire que c'est surnaturel, que c'est extraordinaire, donc étonnante transformation qui porte sur le caractère, qui porte sur l'être moral. Naturellement, ce n'est pas une transformation physique. Transformation du caractère, de la mentalité, faculté d'aimer, ce qui n'est pas aimable particulièrement, parce que aimer ceux qui nous aiment, ce n'est pas trop difficile. Autorité, capacité de support, puissance du miracle, etc., etc. Tous ces caractères se sont vérifiés dans l'histoire. Et je prends quelques exemples patents. Tout commence humblement et de façon si discrète. Prenons l'exemple de Moïse. Nous le rencontrons dès le début à sa naissance. C'est un nouveau-né. Et pourtant, nouveau-né qui dérive sur le Nil, parce qu'il est naturellement eh bien, condamné à la mort par le Pharaon, mais quand on compare ce qu'il était enfant, petit enfant, et lorsque l'on voit à la fin de sa vie son œuvre immense, on peut dire que, véritablement, Dieu, eh bien là, par l'obéissance, par la foi de Moïse, a fait de cet homme un véritable géant dont on parle encore aujourd'hui. Prenons l'exemple également de David, petit berger, en effet en Palestine, qui devient un des plus grands rois d'Israël. Voilà. Et Dieu a cette façon de faire en prenant ce qui ne paraît pas, ce qui est petit, ce qui est insignifiant, pour en faire véritablement, eh bien là, des hommes illustres. Regardons par exemple l'exemple des exemples, c'est Jésus dans la crèche. Un petit enfant qui fuit avec ses parents et qui va naître dans des conditions les plus misérables ou les plus humbles et qui va véritablement nous laisser, eh bien, le plus beau, le plus magnifique, l'éternel testament à travers sa révolution incomparable de l'évangile, de sa mort, de sa puissance divine manifestée à travers des prodiges, des guérisons, le secours des hommes, à travers des enseignements extraordinaires, incomparables révolutions que Jésus va nous laisser. Témoignage en tous les cas. Les 12 apôtres, par exemple. On voit qu'il y a quelque chose d'assez étonnant parce que Jésus en choisit 12. Il n'en choisit pas 240, il n'en choisit pas 10 000, il n'en choisit pas des centaines et des centaines, il en choisit 12 seulement. Et nous voyons qu'à travers ces 12, petit commencement, faible commencement, insignifiant, 12 hommes, eh bien, ils vont être tout simplement les acteurs de l'établissement du christianisme universellement parlant. Et ça, c'est quelque chose de considérer que depuis 2000 ans, à travers ces 12 hommes, et encore on pourrait réduire parce que tous n'ont pas été finalement comme des Paul, des Pierre, des Jacques ou voilà, des Matthieu. Hein, il y en avait aussi qui sont restés très discrets mais qui ont eu aussi une œuvre extraordinaire, la partager avec les autres, les 12 autres. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est aussi très encourageant pour chacun d'entre nous lorsque nous considérons ces petits grains de blé, de bon grain, eh bien, il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Et qui sait ce qu'ils produiront. Et je crois que le christianisme a toujours commencé par quelque chose de petit, et il envahit la terre, il envahit les vies, il envahit les esprits des hommes, il envahit finalement eh bien, le monde entier. Donc, il ne faut pas mépriser les faibles commencements, parce que tout commence avec eux. Dieu, le principe de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas commencer grand et se réduire, c'est commencer tout petit et grandir. Ensuite, nous avons encore une autre proposition. Jésus va poursuivre au verset 33 et il est dit ceci. Jésus dit cette autre parabole, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la foule, que toute la pâte soit levée. » Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Il s'agit maintenant de la parabole du levain. Pour la poudre de levain, ou le levain peut-être là formulé en pâte, je ne sais pas, la poudre de levain a pour but de faire lever la pâte du pain par un processus de fermentation. Là, nous voulons souligner la fermentation. Là, le livret, c'était la corruption. Nous avons vu également que dans l'exemple précédent, il y avait là le développement, l'accroissement. Maintenant, c'est la fermentation. L'Évangile a cette vertu semblable d'opérer cette croissance mystérieuse. Ça ne se voit pas, mais il y a là un processus de vie. Davantage à l'intérieur qu'à l'extérieur des individus. Le message de l'Évangile, c'est en quelque sorte comme une poudre de levain qui est mise dans la pâte, la vie des hommes, la vie morale surtout, la vie morale des hommes, et ça se passe à l'intérieur. C'est une révolution du cœur, de la conscience, de l'intelligence, de la volonté, et c'est ainsi que les choses se font, comme le levain qui quelque part va disparaître dans la pâte, mais qui va faire, tout en étant invisible, va faire une œuvre extraordinaire. Le levain caché dans la pâte, c'est la vie divine, c'est la vie de l'esprit, agissant lentement, mais qui transforme peu à peu, qui va créer la foi, qui va purifier le cœur, les pensées, qui fait une œuvre en profondeur. C'est le principe qui crée une vie nouvelle que Jésus donnera, dont il donnera le nom, la nouvelle naissance. La conversion, la repentance, la conversion, le choix de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ensuite l'engagement, et après la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Un pain sans levain, est quelque chose de quelconque. Le levain change une pâte en un aliment goûté et savoureux, telle est l'action du Saint-Esprit dans une vie d'homme. Et d'ailleurs, Jésus dira, « Je vous envoie, allez par tout le monde, mais sachez que vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. La lumière qui éclaire, vous êtes des hommes qui allez éclairer le monde et vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire que vous allez lui donner du goût. Apportez finalement, eh bien, le témoignage d'une vie qui mérite le nom de vie, non pas d'existence. » Alors, c'est cette œuvre mystérieuse. Il y a encore quelque chose que Jésus prend comme image, comme parabole. C'est un trésor caché. Et le verset 44, eh bien, nous le rappelle. Il est dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. » On pourrait dire que c'est un homme judicieux et malin. Alors, le sens littéral est simple. Un homme découvre, par exemple, un trésor fabuleux. Il est là, il bat la campagne, et à un moment donné, je ne sais par quelle inspiration, eh bien, il va mettre la main sur un trésor. Et il va l'enlever, il va le déterrer, il va l'extraire, et il le cache à nouveau dans un autre endroit. Alors, dans cet autre endroit, il va l'enterrer tout à nouveau afin que nul ne se doute de sa trouvaille et qu'on ne vienne pas l'importuner. Cette découverte inespérée le transporte de joie. Et que fait-il ? Il vend tout ce qui lui appartient pour acheter le champ où il a caché tout à nouveau, eh bien, ce trésor. Toute son attention se porte désormais sur son trésor. C'est quelque chose qui va prendre toute sa vie, c'est quelque chose qui va finalement occuper ses pensées, qui va véritablement le réjouir, hein, qui va faire toutes les perspectives uniquement de sa vie, tout simplement. Alors l'explication pourrait être celle-ci, c'est que le royaume de Dieu, c'est quand quelqu'un découvre les richesses impérissables de l'Évangile. Voilà, c'est un trésor. Hein, Jésus parlera de la perle de grand prix, nous en parlerons d'ici quelques instants. Voilà. Donc, les richesses merveilleuses, impérissables de l'Évangile, à travers la grâce, à travers le pardon, et surtout, Jésus et sa parole. Mais que nul n'obtient sans faire le sacrifice de tout ce qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il faut, aller de notre passé, quitter notre passé, quitter notre histoire, quelle qu'elle ait été, pour aller vers une autre histoire, vers une autre découverte, pour aller vers une autre vie. Mais il faut faire le sacrifice de tout ce qui nous est propre, pour avoir que seul motif et seule ambition, eh bien, le trésor que nous avons découvert. C'est ça le message de l'Évangile. On s'aperçoit que quand des hommes et des femmes se convertissent à Jésus-Christ, ils ne renient pas leur vie, ils ne renient pas leur histoire, leur passé. Hein, c'est quelque chose que nous pouvons constater. Par contre, le trésor qu'ils viennent de découvrir dans la personne de Jésus, eh bien, va devenir absolument la priorité de tout le reste de leur vie. L'affection de Dieu devient prioritaire sur tout ce qu'on a pu aimer auparavant. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire de renier, ça ne veut pas dire d'abandonner, de délaisser parents, famille, travail et tout ce que vous voulez. Ça veut dire que maintenant, c'est Dieu qui prend la première place et qui va nous donner justement de mieux aimer. Quelque part, ce qui nous sont chers, hein, mais d'une autre manière que de la manière humaine et égoïste. Hein. D'où son détachement spontané de tout ce qu'il sait, qu'il perdra un jour ou l'autre par la mort. Parce que ça, c'est ça, hein, la grande question. C'est qu'on sait qu'on peut avoir des fortunes, on peut avoir toutes sortes d'aventures sentimentales et tout ce que l'on veut, hein, et le cœur peut balifoler dans tous les sens, ça c'est certain, mais à un moment ou un autre, il faudra tout quitter. Or, ce que Jésus va nous dire à travers ce trésor qui est caché, c'est qu'un jour ou l'autre, nous devrons nous détacher de toutes ces choses pour donner la priorité à Dieu et, en contrepartie, s'attacher à des valeurs essentielles et éternelles. Et Jésus le dira bien et le soulignera, « Là où est ton cœur, là sera ton trésor. » Et c'est à nous de déterminer ce que nous voulons, ce que nous entendons par là. La joie qu'éprouve cet homme est la joie du salut, qui seul rend capable de se dépouiller de certains amours, de certaines affections, de certaines tendresses, au profit d'un amour plus grand, plus puissant et manifestement plus durable. Nous arrivons à une autre parabole, c'est la parabole de la perle de grand prix dont j'ai évoqué l'idée tout à l'heure. Alors donc, au verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a achetée, tout simplement. » Alors, nous avons naturellement dans le principe la même force de renoncement que précédemment pour obtenir ce qu'il y a de plus précieux, avec cette différence que pour le trésor que cet homme découvre, l'homme trouve incidemment, il va dans un champ, il trouve un trésor, mais il ne l'a pas cherché. Il le trouve. Tandis que dans le cas de la belle perle, celui-ci la cherche. Le royaume de Dieu vient vers certains, simplement sans qu'il les cherche vraiment. Et on peut dire que, entre parenthèses, il n'y a pas de hasard. D'autres, comme ce qui est dit dans ce paragraphe, d'autres aspirent depuis longtemps à trouver la vérité. Patiemment, sincèrement, ils cherchent et ils finissent par trouver. Il y a un texte de l'apôtre Paul qui nous dit, et c'est Dieu qui parle, « Ils m'ont trouvé parce qu'ils me cherchaient. » Et il dira de d'autres, « Eh bien, ils ont véritablement trouvé le salut sans me chercher. » Donc il y a divers chemins qui nous mènent à Dieu. Et nous pouvons dire que Jésus est à la fois le trésor, mais il est aussi la perle de grand prix. Et quelquefois, eh bien, sans le chercher, d'une manière, à travers des circonstances de notre vie, à travers des malheurs, à travers des pertes, à travers toutes sortes de choses, eh bien, nous rencontrons finalement la perle de grand prix qui est Jésus, pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous sauver, pour faire tout ce dont nous avons besoin, qui nous est nécessaire. Et parce que cela, naturellement, étaye cette proposition de Jésus quand il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors si nous avons le courage de demander, si nous avons le courage de chercher, comme dans les trésors et la perle, et si nous avons la persistance de frapper jusqu'à obtenir, alors à ce moment-là, le Seigneur répond. « Si vous me cherchez, dira Jésus en conclusion peut-être de cette petite pensée, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, je me laisserai trouver par vous. » Et puis je, bientôt terminé, encore le filet jeté dans la mer. Alors, au verset 47, il y a deux versets à lire, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même, écoutez bien, il en sera de même. À la fin du monde, c'est pas maintenant, mais à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, etc., etc. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la présentation du royaume de Dieu qui arrive à son stade final. Ça ne sera plus à ce moment-là la terre, l'histoire de la terre, mais l'accomplissement de toutes les promesses, de toutes les prophéties, prédictions, où il nous est dit que Jésus revient, pour sauver ses rachetés, et puis apporter finalement tout ce qui est nécessaire pour éliminer le péché, le mal, la mort dans ce monde. Nous passons à ce moment-là de cette période historique qui est l'histoire des hommes sur la terre à son existence, l'existence des hommes et particulièrement des sauvés, existence parfaite et définitive, c'est-à-dire le royaume des cieux. Ce n'est plus tellement la proposition du royaume de Dieu qui prépare par l'Évangile, qui nous met en condition pour rentrer dans le ciel, mais c'est une période qui va arriver à son terme, et c'est la période de la moisson, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans la première proposition, et de la dernière sélection. C'est ça la question. L'Évangile a été annoncé partout et à tous, et on s'aperçoit que les uns refusent, les autres acceptent. Alors le filet est tiré sur le rivage et le grand tri commence. Les justes séparés des incrédules, des rebelles, les révoltés, qui jusqu'à maintenant étaient confondus ensemble. Et c'est ce que nous voyons dans notre monde. Hein, il y a tout, et tout ce qui peut représenter le bien et le mal, le vrai, le faux, les ténèbres, et puis la lumière, tout est ensemble confondu, comme l'ivraie avec le bon grain. Et ce triage se fait avec calme. On le ressent dans ses paroles, avec solennité et en toute justice. Et il n'y aura pas d'erreur possible, parce que c'est Dieu qui l'a maintenant, ce n'est pas les hommes qui vont juger, mais c'est Dieu. Alors, si nous y réfléchissons, il y a un verset qui résonne dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'est pas question de la réincarnation et de toutes sortes de spéculations, pseudo-religieuses et toute imagination. Après quoi vient le jugement. Alors il y aura deux jugements. Et je voudrais le dire, il y a ce que l'on appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ n'est pas un tribunal de condamnation. C'est un tribunal qui récompensera par des couronnes, par exemple, et naturellement, certainement beaucoup de choses, d'autres, mais qui récompensera ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont donné leur vie pour Jésus, ceux qui ont manifesté leur amour pour Jésus. Et manifester l'amour pour Jésus, c'est aussi manifester l'amour pour nos semblables, et toutes sortes de choses. Alors, ça c'est le premier jugement, à ce moment-là, jugement de récompense, jugement de bénédiction, et c'est un jugement de félicité. Et là, il n'y a rien à craindre, puisqu'il est dit à un moment donné, dans Paul, il nous est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Entendons par là qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, et qui croiront jusqu'au bout en Jésus-Christ. Et puis, il y a naturellement ce deuxième jugement à la fin des temps que l'on appelle la seconde mort, le grand tribunal blanc. Et là, ça sera un jugement pour tous les révoltés, pour tous les dictateurs, tous ceux qui ont fait couler le sang, tous les orgueilleux, enfin tout ce que l'on peut imaginer d'épouvantable sur la terre, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est un appel au bon sens sur la destinée éternelle. Où allons-nous ? Qui sommes-nous ? Naturellement. La conclusion pourrait être celle-ci. C'est une dernière illustration que nous avons, alors cette fois-ci, dans l'évangile de Marc. C'est la semence jetée en terre. Et c'est un peu le résumé de tout le reste. Donc dans Marc, chapitre 4, verset 26, un tout petit paragraphe que nous plaçons devant nous, Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » C'est très pratique tout ça, et c'est très compréhensible, parce que c'est simple, naturellement. Un semeur laboure, et il ensemence son terrain. Il faut d'abord enlever les pierres. Ça, c'est tous les processus, finalement, normal de la vie agricole. Donc, il ensemence, il jette sa semence, et il fait son travail comme il se doit. L'évangile est annoncé, s'il met en parallèle, quoi qu'il arrive, et que le paysan dorme ou qu'il veille, peu importe, il a fait son travail. La semence peut attendre avec confiance les résultats, le semeur plutôt, peut attendre avec confiance les résultats, parce qu'il sait, il a la foi, il a confiance, il sait que depuis les temps immémoriaux, quand un homme jette une graine en terre, elle va pousser, elle va produire du fruit. Tout simplement. Et il ne va pas se mettre martel en tête, comme l'on dit, pour voir si tous les jours, ça commence à pousser, et puis mesurer la petite tigelle, et etc., etc. Non, il laisse faire les choses. Alors qu'il dorme, qu'il s'inquiète, ou qu'il se rassure, finalement, les choses se font. Car le reste appartient à Dieu. C'est plus maintenant à l'homme. Finalement, il a dépierré, il a fait des sillons, il a mis dans ses sillons la graine, et puis maintenant les choses se font, parce que le reste, ça, c'est le miracle de Dieu. Et Dieu est le maître souverain de toute vie naturelle et spirituelle, il y a les deux, Et là, nous sommes en train de faire avec Jésus une comparaison entre le naturel et le spirituel. C'est pour ça que l'évangile est compréhensible et accessible à tout le monde. Il nous est dit que d'elle-même, la terre produit premièrement l'herbe, puis l'épi, puis le grain formé dans l'épi. C'est le mystère de la vie et de la croissance. Et on peut être biologiste, on peut être botaniste, on peut... Et ça, c'est constatable, on le voit naturellement. Alors on en connaît le principe. L'application morale est la suivante. La semence, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et c'est ce que nous avons vu au départ avec le blé et l'ivraie. La semence, c'est la parole de Dieu qui est jetée dans les cœurs et les consciences et qui produit la foi pour ceux qui la retiennent, cette parole, parce qu'il faut la retenir, c'est pas seulement de l'entendre aujourd'hui, et puis de l'oublier demain, après-demain, et puis de ne rien en faire. Mais ils retiennent, ils ont été touchés au fond de leur cœur, ils ont été finalement interpellés. Ensuite s'opère, sans que l'on le sache, un processus lent, une croissance graduelle, avec les temps, les saisons, la pluie, le soleil, enfin toutes sortes de phénomènes, toutes sortes d'éléments qui sont là pour eh bien, apporter la vie. Mais c'est certain, tout cela, c'est certain, et nous voyons qu'il y a ce principe qui est celui de la vie divine qui préside au-delà du geste naturel de l'homme, jusqu'à la perfection, mais il faut du temps. Et c'est ça la question peut-être pour ceux qui débutent dans la vie spirituelle, qui entendent le message de l'Évangile, qui apprennent à connaître le nom de Jésus, qui ont fait des expériences dans leur détresse, dans leur maladie, et qui commencent à faire les premiers pas de la foi. Il faut du temps. Et il ne faut pas naturellement bousculer les choses, c'est le temps qui parle en tout cela. Et l'essentiel du royaume de Dieu, c'est de le recevoir comme la vérité qui vient de Dieu, qui vient du ciel, et de l'accepter dans sa vie. Mais l'œuvre du salut, en tous les cas, ne manquera pas de se faire. Alors, je voudrais simplement exhorter tous les amis qui nous écoutent, ceux qui commencent peut-être et qui découvrent eh bien, ce principe, qui est un principe compréhensible, je l'ai dit, et accessible naturellement, et ainsi de pouvoir tout simplement eh bien, laisser l'œuvre de Dieu de se faire. La parole de Dieu, c'est la semence. Elle va créer en nous des réflexions. Elle va susciter en nous des réactions. Elle va, dans le meilleur des cas, eh bien, produire de la foi, de la confiance, non pas dans une religion, non pas dans des hommes, aussi bon soit-il, si l'on peut dire les choses comme ça, mais en Jésus-Christ, dans la personne de Dieu. Et ensuite, il va y avoir un acte que l'on appelle la repentance. Une contrition, une repentance, pas une pénitence, mais une repentance, c'est-à-dire la tristesse d'avoir offensé Dieu et de vouloir maintenant vivre une vie nouvelle. Et ensuite, il va y avoir une appartenance, c'est-à-dire relier Jésus-Christ, rallier Jésus-Christ et son message, sa personne. Et de là, eh bien, il y aura une obéissance que l'on appelle eh bien, s'engager dans les eaux du baptême. Ce n'est pas un baptême d'enfant, mais c'est un baptême d'adulte en connaissance de cause. Et ensuite, Dieu va répondre à cet engagement de l'homme. Il va répondre par tout simplement ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance spirituelle. Nous pouvons faire beaucoup de choses naturellement, mais en ce qui concerne les choses spirituelles, elles viennent d'en haut. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux s'est approché de vous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire et que Dieu vous aide véritablement. Eh bien, à être la bonne semence, ou à laisser la semence entrer dans votre cœur et faire une œuvre, eh bien, là, éternelle. Merci à tous, que Dieu vous bénisse, et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur notre site, la cale aux mille trésors, Bible Espoir. Également, nous avons également une autre proposition qui est celle de l'écriture en majuscule. Vous retrouvez des vidéos eh bien, sur la YouTube, Bible Espoir YouTube, et que Dieu nous bénisse, et à bientôt, mes amis.